Allora, i Vietmen ovviamente volevano. Ah sì, un'altra cosa che non c'è solo stato Dien Bien Phu nel 54, allo stesso momento nel centro del Vietnam, quindi in questa regione lì, c'era anche un gruppo massiccio che ha rifatto un po' la battaglia della C4 e che è stato annientato dalle forze Vietmen. Quindi, infatti, quella sconfitta francese è poco conosciuta, però è anche un fattore che spiega molto perché i francesi erano così deboli alla conferenza di Ginevra, che avevano perso più o meno i due punti forti del loro esercito in Indocina. Allora, la soluzione che è scelta per la pace è la divisione del Vietnam in due. I Viet Minh non volevano questo, ovviamente, volevano l'indipendenza di tutto il paese e l'unità di tutto il paese. Però gli americani hanno spinto per che voleva. Gli americani già a quel momento lì volevano prendere il posto dei francesi. E ne parleremo dopo nella prossima conferenza di quella di domani, ma volevano creare un bastione anticomunista nell'Asia del sud-sud-est. E quindi spingono per questa soluzione della divisione tra nord e sud. I vietnamiti alla fine sono costretti ad accettare questa soluzione perché i cinesi li spingono ad accettarla. Gli dicono non ci sarà modo di avere l'indipendenza totale, quindi questo è il minimo che potete avere. È un paese comunque con grande città, un grande porto, un aeroporto, eccetera, e da lì potete cominciare a creare veramente uno stato. Allora, è quello che infatti si crea, che al nord c'è la RDV ufficialmente che prende il controllo del nord del diciottesimo parallelo, e al sud si crea la Repubblica del Vietnam, RVN, che è creata dopo, e si dà anche l'indipendenza al Laos e alla Cambogia. Ovviamente tutto è pronto per la prossima guerra. E allora vorrei finire questa presentazione e farvi vedere il documentario dopo sui primi anni della RDV. Tornare un po' al sviluppo del movimento rivoluzionario stalinista in Nord Vietnam. Nel 1953 hanno lanciato questa nuova campagna che avevano chiamato la campagna della riforma agraria. Più o meno l'idea di base era la ridistribuzione delle terre, perché durante l'epoca coloniale tutte le terre erano, cioè, c'era una classe latifundista francese in maggior parte, ma anche vietnamita. E quindi c'era un bisogno di ridistribuire le terre in modo giusto per i contadini poveri che hanno combattuto con i Vietmin. Però questo era solo la base. Il vero obiettivo era di assicurarsi veramente e definitivamente del potere per il Partito Comunista. Quindi hanno lanciato questa campagna di denunciazione. Infatti facevano tipo tre o quattro livelli, tre classi di contadino. Cioè, quello più sotto era il contadino povero, che proprio non aveva niente, che era. Tipo non aveva terra, non aveva attrezzi, non aveva macchine, niente. E lui è considerato come il vero proletario, quello difensore della vera rivoluzione che sta venendo. E poi, cioè, alzando i livelli, c'è un po' ricco, e quello che ha un bufalo, che ha, non lo so, una risaia, eccetera. E quindi poco a poco si scende, e più sei alto, più uno fosse alto su questa scala, più è considerato come un nemico della rivoluzione, anche se fossero gente che hanno aiutato i Vietmin. Per dirvi che questo è andato così, così grave che i genitori di alcuni quadri del Partito Comunista, ma alti, nella gerarchia del Laudong, i genitori di loro sono stati purgati in questa riforma agraria, e i loro figli, quindi i quadri del Partito Comunista, non hanno potuto impedire questa roba lì. Quindi veramente una purga di tutta la società per assicurarsi il controllo del partito, dello Stato. infatti i veri nemici, quelli che i comunisti volevano distruggere, annientare, tutti erano già andati via. Perché? Perché durante la conferenza di Ginevra, dopo la pace, le due Vietnam e tutti gli attori, tutti quelli che hanno firmato questo accordo, in questo c'era un periodo di 300 giorni in cui c'era una libertà di movimento tra i due Vietnam per quelli che, così tutta la gente che volevano scegliere un regime o l'altro poteva farlo. E la CIA a quel momento ha lanciato una campagna che si chiamava Passage to Freedom, passaggio alla libertà, nel Nord Vietnam per spingere tutti i vietnamiti a scapparsi del regime comunista. Quindi tutti i ricchi, i cattolici, tutti questi, i medici, ma si tratta di 800.000 persone che sono scesi dal nord al sud. Per dirvi un'idea che nell'altro senso, quindi i Viet Minh del sud che sono andati nel nord sono solo 70.000, qualcosa del genere. Quindi c'è un esilio massivo dei collaboratori dei francesi, infatti dal nord verso il sud. Ancora oggi in Vietnam, nel sud, c'è questa gente che i vietnamiti chiamano Bac Nam Tu, che vuol dire la gente del nord del 54, o i decedenti di questa gente qua. E quindi il nord si costruisce così. Da domani vedremo come si fa la costruzione del sud, però il nord si crea così, come uno stato completamente controllato dal Partito Comunista, che si dice due modi d'ordine: è costruire il socialismo al nord e preparare la riunificazione al sud. E l'unica speranza che hanno questi del nord per non rifare la guerra contro il sud è che ancora negli accordi di Ginevra si è detto che dopo 2 anni, dunque nel 56, ci sarebbero delle elezioni in cui il popolo vietnamita interamente potrà scegliere che leader vorrebbe per il paese intero. E ovviamente queste elezioni non ci sono state. E voilà. Per dirvi comunque la riforma agraria, prima che mi lo dimentico questa cosa, è stata così dura sulla popolazione del Nord Vietnam che è quasi scoppiata una guerra civile. E direi che nel 56, quindi 2 anni dopo che della vittoria e della pace, ci sono alcune comunità di questa zona lì che si sono rivoltati contro il potere del Partito Comunista e i Viet Minh, i dirigenti del nord, hanno dovuto mandare l'esercito a fermare questa gente qua. E è andato a un tal punto che questo non ho mai sentito una cosa simile in altri paesi stalinisti, che Ho Chi Minh e Giap sono andati davanti alla gente pubblicamente a fare le scuse sugli abusi di questa riforma agraria, dicendo che è andato troppo lontano, ci sono stati vari errori e adesso si ferma la riforma agraria. Voilà. Allora, c'è un pezzettino di documentario, poi si può discutere se avete domande, eccetera.
À son tour, la Birmanie devient un enjeu crucial sur le continent asiatique. Si les Alliés parviennent à rouvrir les voies de ravitaillement entre l'Inde et la Chine nationaliste, ils obligeront les Japonais à prélever des troupes et du matériel sur le front dans le Pacifique. Les armées britanniques et américaines décident d'employer des méthodes de combat nouvelles derrière les lignes japonaises. Ils entrent en contact avec les tribus locales et les forment au combat. Les Américains envoient aussi sur place des membres du tout nouvel Office des services stratégiques, l'OSS, le précurseur de la CIA, pour aider les groupes locaux, qu'ils soient nationalistes ou communistes. En échange de renseignements, une unité de l'OSS baptisée Dear Team fournit des armes au Viet Minh d'Ho Chi Minh et entraîne ses hommes. Ho Chi Minh.
Cette fois, nous tenons l'occasion de nous libérer. Enlisé en Chine, paralysé par les Britanniques et les Américains, les Japonais sont incapables de nous faire face. Si notre peuple tout entier s'unit, nous écraserons les armées françaises et japonaises. Mes compatriotes, debout. Combattez les Français et les Japonais.
Fin 1944, l'Empire japonais en Asie commence à s'écrouler sous les assauts des forces alliées. Giap en profite pour lancer une insurrection générale dans tout le Vietnam. À l'été 1945, il est nommé général à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Mais la riposte des Japonais est terrible. Le général Giap.
C'était le règne de la terreur. Des familles entières ont été arrêtées, les maisons brûlées, les villages entièrement rasés. Ceux qui possédaient des documents révolutionnaires étaient fusillés ou décapités, ou les Japonais leur coupaient les bras et les exposaient sur la place du marché. Ils offraient aussi des milliers de piastres à quiconque leur apportait la tête d'un révolutionnaire. Nous savions que la lutte serait longue et difficile. Dès 1941, Oncle Ho nous avait prévenu que les combats contre les Japonais n'étaient qu'un début. Il savait que les Britanniques et les Américains avaient les mêmes intentions que les Français. C'étaient tous des impérialistes.
Un camp d'entraînement de l'OSS en Birmanie à la fin de la guerre. La situation évolue rapidement en Asie. Les prédictions d'Ho Chi Minh s'avèrent justes. En mars 1945, l'armée japonaise renverse l'administration française et la remplace par un gouvernement fantoche avec à sa tête l'empereur d'Annam, Bao Dai. 25 août, Rangoon, en Birmanie. Le général Takezo Numata arrive de Saïgon pour signer la reddition de l'armée du Sud aux forces alliées, conformément aux ordres de l'empereur Hirohito, qui a exhorté son pays à supporter l'insupportable et accepter la défaite. Ho Chi Minh.
C'est une grande avancée dans le combat que notre peuple mène depuis près d'un siècle. Désormais, le Comité vietnamien pour la libération du peuple constitue notre gouvernement provisoire. Unissez-vous autour de lui et veillez à ce que sa politique et ses ordres soient appliqués dans tout le pays.
Tandis que le Viet Minh prend le contrôle du pays, les troupes alliées arrivent elles aussi. Les nationalistes chinois au nord, les britanniques au sud. Saïgon, 6 septembre 1945. Les prisonniers de guerre alliés et les prisonniers politiques français sont libérés par les britanniques. Le général Grécy, commandant des forces britanniques, autorise les Japonais à conserver leurs armes pour l'aider à maintenir l'ordre. À présent, c'est un gouvernement révolutionnaire qui dirige la plus grande partie du pays. Les Vietnamiens soupçonnés d'avoir collaboré avec les Français et les Japonais font l'objet de représailles. Futur diplomate, Nguyen Xuan Phong raconte ce qui est arrivé à sa famille.
Évidemment, ils avaient emprisonné les propriétaires terriens et tous ceux qui avaient la moindre fonction officielle du temps des Français. Mon grand-père a été jeté en prison parce qu'il était le chef du village. Heureusement, mon oncle, qui avait été à l'école avec un dirigeant Viet Minh, est allé le voir. Il lui a dit « Pourquoi avez-vous arrêté mon père ? Il est inoffensif et n'a jamais rien fait de mal. » Quelques jours plus tard, il était libéré.
Le grand-père de Phong l'a échappé belle. Beaucoup d'autres sont exécutés par le Viet Minh, impitoyables envers ceux qu'ils considèrent comme des collaborateurs. Pour la première fois, les Vietnamiens se battent contre leurs compatriotes. L'indépendance n'est qu'éphémère. Quelques mois plus tard, avec le soutien des Britanniques et des Américains, les soldats français sont de retour et reprennent le sud du pays, tandis que le Viet Minh est désarmé. Dans le nord, les partisans d'Ho Chi Minh sont incapables d'empêcher les exactions de l'armée nationaliste chinoise. Ils n'ont pas d'autre choix que de demander aux Français de ramener l'ordre. Une nouvelle fois, l'Indochine est régentée par Paris. Bien que les Américains soutiennent la cause des nationalistes vietnamiens, le fossé idéologique qui divise les démocraties occidentales et le communisme de l'Union soviétique est fatal au gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh. Les membres du Viet Minh se dispersent dans la campagne. La situation se dégrade rapidement et débouche sur la première guerre d'Indochine. Le général Diap.
De l'autre côté, l'armée de métier d'une vieille puissance coloniale, disposant des armements les plus modernes. Avions, navires de guerre, artillerie, mitrailleuses. De notre côté, des gens ordinaires équipés d'armes rudimentaires, mais déterminés à se battre jusqu'au bout pour défendre leur pays.
En apparence, la vie des résidents français reprend peu à peu son cours normal. Mais de nombreux jeunes Vietnamiens se retrouvent face à un choix radical. Nguyen Xuan Phong habite alors Saigon.
On voulait se libérer du joug français. On appréciait le style de vie qu'ils nous apportaient, mais on ne voulait pas les avoir sur notre dos. À la fin des années 40, il y a eu des troubles dans les lycées vietnamiens. Certains élèves, moi y compris, faisaient circuler des photos de Ho Chi Minh aux côtés de Lénine et Marx. J'ai fini par me faire prendre. Mon père a été convoqué et j'ai été expulsé. Mon père m'a ramené à la maison et m'a flanqué une bonne raclée. Pourquoi as-tu fait ça? Ne fais pas des choses pareilles. Je ne sais pas comment il m'a fait réintégrer. Mes oncles sont partis pour le Nord, rejoindre le Viet Minh. Mais ils sont toujours restés en contact. Ils étaient au Nord, nous au Sud. Chacun avait sa propre vie. La plupart d'entre nous n'ont pas fait un choix conscient. On se retrouvait dans une situation. On restait. Et on faisait avec.
Bien que la guérilla du général Diap finisse par saper le contrôle des forces françaises dans les campagnes, ces dernières possèdent encore une puissance de feu terrifiante. L'officier Viet Minh Ngô Văn Thieu évoque la bataille de Vinh Yen le 17 janvier 1951.
Notre division est attaquée depuis ce matin. On a formé un groupe de 10 bataillons d'élite qui devraient réussir à prendre Vinh Yen avant demain. Tout à coup, j'entends un bruit dans le ciel. D'étranges oiseaux apparaissent. Ils sont de plus en plus gros. Des avions. J'ordonne à mes hommes de se mettre à l'abri des mitrailleuses et des bombes, mais les appareils piquent sans tirer. Et là, l'enfer s'ouvre devant moi. De grandes boîtes métalliques en forme d'œuf sont larguées et d'immenses tapis de flammes de plusieurs centaines de mètres déclenchent la panique parmi mes soldats. C'est du napalm. Le feu tombé du ciel.
En 1951, 100 000 Vietnamiens luttent contre le Viet Minh aux côtés des Français. Saigon, au printemps. Nguyen Lac Hoa assiste à un défilé militaire de l'armée nationale vietnamienne en l'honneur de Jean Latourneau, le nouveau haut-commissaire français en Indochine.
Beaucoup de Vietnamiens sont prêts à combattre pour les Français parce qu'ils considèrent que c'est dans leur intérêt. Ils disposent de l'équipement américain dernier cri et sont impressionnants. Se battront-ils contre d'autres Vietnamiens dans un conflit de grande ampleur? Je n'en sais rien.
L'armée vietnamienne fait partie de l'Union des forces françaises, qui compte les légionnaires, les parachutistes, plus de 40 000 soldats africains et nord-africains et près de 20 000 officiers français. Saigon, mars 1953. Le maréchal de France, Alphonse Juin, et le commandant en chef des forces françaises, Raoul Salan, accueillent le général américain Mark Clark, commandant en chef des forces américaines en Extrême-Orient. Est également présent le chef d'état-major de l'armée vietnamienne, Nguyen Van In. Le général Diap.
Les Français sont en train de s'allier aux Américains et d'utiliser leur argent et leur matériel pour créer des armées nationales. Peu à peu, ils livrent l'Indochine aux États-Unis.
En effet, les États-Unis financent 80% de l'effort de guerre français, tandis que les ressources du Viet Minh proviennent directement d'Union soviétique et du nouveau régime communiste de Mao Tse-tung. La guerre d'Indochine a dépassé le stade de l'escarmouche entre un empire colonial européen et ses sujets. Elle est en passe de devenir un conflit mondial. En mai 1953, le général Salan est remplacé par le général Henri-Eugène Navarre. Immédiatement, ce dernier prend une décision capitale. Créer une position défensive essentielle au nord-ouest du Vietnam, près de la frontière laotienne. « Il choisit un petit village au croisement des routes stratégiques entre la Chine, le Laos et le Vietnam, et occupé par des Thaïs, restés fidèles aux Français. Ce village s'appelle Dien Bien Phu. Par avion, Navarre fait acheminer des troupes nombreuses de la base aérienne d'Hanoï et de Cat Ba à Haiphong. Go Van Thieu observe l'arrivée des soldats français.
On savait que c'était leurs meilleurs éléments, les parachutistes, les légionnaires. La bataille serait dure. J'ai compris que Dien Bien Phu signifierait notre victoire ou notre perte.
Des bombardiers B-26 fournis par les États-Unis larguent du napalm sur les positions ennemies. Encerclés par 50 000 hommes de l'armée Viet Minh, la garnison française est opposée à un adversaire quatre fois supérieur. Fin novembre 1953, le général Giap note
« Nos éclaireurs à Dien Bien Phu envoient des rapports quotidiens. L'ennemi parachute des soldats, des armes et une quantité énorme de fils barbelés et rénove la vieille piste d'atterrissage des Japonais. Les généraux français ont annoncé « Ce n'est pas un raid ». Nous avons pris cet endroit et nous comptons bien y rester. Ils leur ont voulu.
Le réalisateur Roman Carmen est autorisé à circuler librement parmi les soldats de Jap pour filmer l'histoire de la bataille. Les Français ont fait une erreur tactique fatale en pensant que Dien Bien Phu serait protégé d'une offensive menée par les chars et l'artillerie lourde. Le général Giap.
J'ai donné l'ordre à notre 351e division lourde de travailler jour et nuit pour ouvrir une piste de 82 km jusqu'à Dien Bien Phu pour permettre le passage de nos véhicules motorisés. Ensuite, ils ont ouvert une piste de 15 km à travers la montagne afin que nous puissions tirer nos canons jusqu'au front.
Le colonel Christian de Castries a été nommé commandant de Dien Bien Phu. Surnommé plus tard les 55 jours d'enfer, la bataille est sur le point de commencer. Pour les deux camps, pas question de faire de quartier. Cao Xuan Nha, un officier Viet Minh.
Il nous a fallu 45 jours pour arriver là-bas, en marchant de nuit et se reposant le jour. Parfois, on dormait sur le bas-côté, après avoir creusé notre trou pour nous abriter en cas d'attaque aérienne.
Tran Van Go, capitaine dans l'armée Viet Minh.
Les Français étaient plus grands et beaucoup mieux équipés. Mais nous avions une arme contre eux, notre courage. Nous étions déterminés à nous battre jusqu'au bout contre ceux qui nous volaient notre pays.
Mars 1954, début de l'offensive contre le camp retranché de Dien Bien Phu. le général Diap.
Les Français n'ont pas réussi à éliminer la menace sur leur aérodrome. Et leur stratégie défensive a perdu un élément crucial, le soutien aérien. C'était leur seule façon de recevoir des renforts et d'évacuer leurs blessés. L'hôpital du camp ne comptait que 40 lits et ils avaient déjà des centaines de blessés. Pour le commandement français, c'était un véritable cauchemar.
Les combats terribles rappellent la guerre des tranchées et les assauts massifs de l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Le nombre des victimes grimpe en flèche. Les actes d'héroïsme dans un camp comme dans l'autre font entrer la bataille de Dien Bien Phu dans la légende militaire. C'est une victoire éclatante pour le Viet Minh et une défaite déshonorante pour les Français. Le 7 mai, Diap lance toute son infanterie à l'assaut du camp. De Castries envoie un message radio au quartier général du colonel Cogny à Hanoï. Les Viets sont partout. La situation est très grave. La fin est proche. Le général Diap.
Ce soir, nous allons frapper l'œil du porc-épic et l'achever.
En fin d'après-midi, la 312e division lui apprend la nouvelle.
Tous les soldats ennemis au poste de commandement se sont rendus. Nous avons arrêté De Castries. À ce moment-là, tout le monde au quartier général s'est mis à crier, à applaudir, à s'embrasser et à sauter de joie comme des enfants. Certains ont fondu en larmes, d'autres sont restés bouche bée. Sous le choc, d'autres encore sont devenus tout pâles.
Promu général de corps d'armée pendant la bataille, le commandant du camp, Christian de Castries, est fait prisonnier, puis libéré 4 mois plus tard. D'autres ont moins de chance. ...1500 soldats français ont été tués. Plusieurs milliers sont blessés. La Croix-Rouge évacue quelques centaines des 10 000 hommes faits prisonniers par le Viet Minh. Mais la plupart sont conduits à marche forcée dans des camps à des centaines de kilomètres de là. Moins de 4 000 survivent et sont rapatriés en France. Côté Viet Minh, les combats ont fait 15 000 blessés et 8 000 morts. La victoire de Dien Bien Phu déclenche une vague d'euphorie à travers tout le pays. Nguyễn Văn Vũ était fonctionnaire dans l'administration française.
Au début, on n'arrivait pas à y croire. Les Européens, si grands et si forts, avec leurs chars et leurs avions, avaient été battus par les petits Vietnamiens. Des paysans, des instituteurs, des ouvriers. Nous étions fiers.
Le drapeau rouge de la Révolution est déployé en l'honneur de la victoire du Viet Minh, aux grandes dames des Occidentaux qui craignent la progression du communisme, en particulier depuis la fin de la guerre de Corée. Le général Diap.
Le succès de la Révolution en Chine a créé un équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Le conflit sur la péninsule coréenne a été la preuve du nouvel ordre mondial. Jusqu'alors, notre guerre concernait seulement les peuples d'Indochine et de France. Les États-Unis comptaient remplacer la France en Indochine, mais la situation ne leur a pas permis d'intervenir directement. Le conflit pourrait évoluer en une seconde guerre de Corée, dans laquelle rien ne garantirait la victoire des États-Unis. En outre, ces derniers auraient du mal à y entraîner leurs alliés épuisés par les combats en Corée.
Un compromis est trouvé pendant la conférence de Genève et un accord signé le 21 juillet 1954. Le cessez-le-feu doit prendre effet immédiatement. Une division temporaire regroupant des soldats français et Viet Minh est créée et stationnée sur le 17e parallèle. Les élections en vue de la réunification du Vietnam doivent avoir lieu dans les 2 ans. L'indépendance du Laos et du Cambodge est confirmée. Après des décennies de domination coloniale, les Français quittent l'Indochine. Dans les 2 camps, c'est la déception. Mais l'heure est au pragmatisme politique. Le général Diap.
Nous avons besoin d'une période de paix. Nous avons besoin d'un territoire avec une capitale, un port maritime et un aéroport pour consolider notre révolution et préparer notre indépendance totale et notre réunification future.
Les États-Unis soutiennent la nomination de Go Dinh Diem comme premier ministre du nouveau Vietnam du Sud. Diem s'assure le contrôle de l'armée de la République du Vietnam, ou ARVN, l'ex-armée coloniale française. Le 22 juillet 1954, Ho Chi Minh s'adresse à la République démocratique du Vietnam, la nouvelle nation au nord du 17e parallèle.
Nous avons remporté de nombreuses victoires, dont la plus grande est celle-ci. Le gouvernement français a reconnu la souveraineté de notre nation. Ses troupes devront quitter notre pays. À partir de maintenant, nous devons concentrer tous nos efforts sur la réunification et l'indépendance totale de l'ensemble de notre pays.
Le gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh impose des réformes économiques staliniennes draconiennes et fait appliquer les principes communistes de façon systématique. La population est mobilisée pour de vastes programmes de reconstruction. Nguyen La Cua, journaliste à Saïgon.
Des centaines de personnes ont émigré vers le sud, surtout celles qui possèdent des terres, des biens ou un certain statut, de même que la majeure partie des catholiques. Oncle Ho était sans conteste un héros nationaliste, mais son gouvernement révolutionnaire était d'une brutalité inouïe. Tout opposant était rééduqué. c'est-à-dire le plus souvent éliminés.
Déclaration officielle du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Hanoï, décembre 1955.
Au cours des 100 derniers jours, 100 000 personnes issues de toutes les classes sociales ont pris part aux interrogatoires des chefs de village autour de la capitale.
Le Sud aussi est en proie à la violence et aux bouleversements sociaux. Nguyen Lac Hoa.
Nous avions nos propres problèmes dans le Sud, dus à la violence des affrontements religieux et du crime organisé. Mais Diem les a écrasés. Il s'est débarrassé de l'empereur Bao Dai et s'est fait proclamer chef de l'État. Puis, avec le soutien des Américains, il a imposé son régime dans tout le pays.
Bientôt, il devient clair que la tenue d'élections prévue par les accords de Genève n'aura pas lieu. La division du Vietnam au niveau du 17e parallèle semble permanente. Désormais, un bastion du communisme, allié à l'Union soviétique et à la Chine au nord, fait face à un rempart occidental soutenu par les États-Unis au sud. La population des deux pays va connaître 20 ans de souffrance et de guerre atroce, avant que le Vietnam divisé ne soit enfin réunifié.
Ok. Et solo c'è una piccola storia a raccontare su quelle immagini, soprattutto quelle della battaglia di Dien Bien Phu. Il fatto che sono tutte fasulle queste immagini qua, perché ovviamente cioè, i Viet Minh non filmavano mentre la battaglia, poi cioè, è fasullo anche perché la maggior parte della battaglia era di notte, non di giorno, che ovviamente i francesi avevano una superiorità sulla potenza di fuoco, i Viet Minh non potevano attaccare di giorno. E tutto quello che avete visto, le immagini della battaglia di Dien Bien Phu, sono state fatte subito dopo la battaglia. I Viet Minh hanno preso tutti i francesi che avevano preso prigionieri e li hanno forzati a giocare il loro ruolo, mentre che filmavano questo film di propaganda con un regista sovietico, Roman Carmen, che magari alcuni di voi conoscono. E infatti, quindi tutte le immagini lì sono fasulle, cioè, non solo da sapere.
Come anche quello della presa del Palazzo d'Inverno, del resto.
Sì, esatto. Vecchie tradizioni. E, solo per finire, veramente stavolta, vorrei finire con una descrizione di un combattente Viet Minh fatta da Bernard Fall, quello giornalista di cui parlavo prima. Ok, e lui descrive il combattente Viet Minh. Sono state dette tante cose sui due lati della barricata circa l'esercito popolare vietnamita, presentato come un mito al servizio di una causa partigiana. Alcuni vi hanno visto solo, finché non è stato troppo tardi, una banda di guerriglieri, se non di sporchi assassini. Altri vi hanno visto soprattutto uno strumento della lotta di classe, uno strumento le cui elevate qualità belliche sarebbero dipese dal fatto di essere composto da soldati che hanno beneficiato della riforma agraria. È abbastanza dubbio che la prospettiva di un fazzoletto di terra, soprattutto nel Vietnam del Nord, dove 93% dei contadini coltivano la loro proprie terre, abbia infuso al soldato Viet Minh il suo coraggio e la sua ferrea disciplina, tutte e due innegabili. Ricordiamo le parole rivolte l'11 luglio 51 dal maresciallo Delattre agli allievi del liceo Chasseloup-Laubat a Saigon. Vi sono tra i Viet Minh degli individui che si battono bene per una cosa cattiva. Di fatto, la verità sembra essere più semplice. Da parte Viet Minh ci si batteva per bene perché si aveva un nemico preciso, la Francia, e un obiettivo ugualmente preciso, l'indipendenza. Dal lato francese si sprofondava sempre più nell'ambiguità dell'indipendenza in seno all'Unione francese, indipendenza che bisognava rafforzare a media ogni 6 mesi attraverso altre solenni dichiarazioni, fino al momento in cui nel 1954 un deputato dell'Assemblea nazionale poté elencare 17 diverse occasioni in cui il Vietnam aveva ricevuto la sua piena indipendenza. Il soldato Viet Minh godeva dunque di numerosi vantaggi, sapeva perché si batteva e contro chi si batteva, e lo faceva sul suo proprio suolo. Voilà.
Bene, io rimanderei tutto a domani, e anche le domande, adesso, se invece volete continuare adesso, se preferite, va bene, però... Domani, magari prima di iniziare la seconda esposizione, potremmo discutere di quello che abbiamo visto ed è stato raccontato oggi. Ecco, potremmo far così. D'accordo. Sempre alle 4.
Sì, stavolta magari se anche di più se facciamo una discussione prima, magari cominciamo
anche,
alle
anche
4.
Oggi abbiamo iniziato abbastanza regolarmente, sì, rispetto ai nostri standard usuali. Va bene, per intanto grazie mille Antoine, a domani.